rendez-vous donc en 2014 à Chambéry. Donc on va clôturer ce colloque avec une intervention de clôture d'Alain Cordier. Mais juste avant, un petit mot de remerciement à nouveau pour nos partenaires ISM Interprétariat et Médecins du Monde. Et tout particulièrement un remerciement à Jackie Platon et Charlotte qui ont été d'une aide extraordinaire, concrète, pratique, qui ont réalisé... Vraiment, c'est grâce à elle qu'on a ce beau livret et cette organisation.
Il faudrait préciser que Charlotte, les mails a été au nom de Ilan. Et donc, tous les mails qui étaient envoyés d'Ilan, c'était Charlotte. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre. Voilà.
C'est à moi apparemment. Bonjour, bonsoir. Quand Claire et Denis m'ont demandé il y a quelques mois, quelques semaines, de venir faire la synthèse, je ne mesurais pas la difficulté de la tâche. Et je dois vous dire que j'ai été très impressionné toute la journée par l'extraordinaire profondeur de ce colloque. Alors, Régis Aubry disait tout à l'heure « faites savoir, communiquer ». Je crois qu'on a été frappé par le mot de capillarité employé par Tanguy Chantel. Moi, j'ai envie plutôt de reprendre le mot ou le verbe de Didier Sicard quand il disait qu'on était dans une société qui ne voulait pas se laisser contaminer et qui repoussait. Et donc, si j'avais simplement un seul mot de synthèse ce soir, je vous dirais « contaminer ». Contaminer la société, contaminer l'univers des soins, contaminer l'université, contaminer le débat public. Alors c'est un peu le fil rouge que je voudrais essayer de retenir avec vous pour reprendre sa synthèse. Alors je ne sais pas quel est l'usage, Claire, j'ai 3 heures pour faire la synthèse ou... Vous m'arrêtez hein, quand vous en avez marre parce qu'il y a tellement de choses à dire que... bon, il y a des gens en province, donc j'imagine. Alors, vous me faites des signes parce que je ne me rendrai pas compte. Voilà, ah ben voilà, il y a les vaches, voilà, c'est parfait. Avant Chambéry, il y a les vaches. Alors, la première chose, c'est que je voudrais juste rappeler, parce que Amine Mokhtar a rappelé le serment d'Hippocrate, moi je voudrais rappeler quelque chose qui est fondamental, c'est l'assurance maladie, parce que l'assurance maladie, elle repose sur un principe fondateur qu'il est bon de rappeler, de marteler, c'est la solidarité bien portant malade. Point barre. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la solidarité riche-pauvre. La solidarité riche-pauvre, elle intervient sur le prélèvement, sur les cotisations, sur l'impôt, sur ce que vous voulez. Mais du point de vue de la prestation, et ça c'est une caractéristique très importante de l'assurance maladie, qui la différencie d'autres prestations sociales, là je ne tiens pas compte de la situation devenue, c'est la solidarité bien portant malade. Alors, on parle beaucoup de Madame Bettencourt en ce moment, mais elle a le droit d'être soignée parce qu'elle est malade. Au même titre que la personne qui se présente dans un accueil, que ce soit le PASS ou que ce soit les urgences ou le médecin généraliste. Et de ce point de vue-là, dans Hélène de Champs-Léger citait le point de vue d'un confrère oncologue, je pense que cet oncologue, en l'espèce, se trompait. Car le principe même de l'assurance maladie, de la solidarité entre les bien portants et les malades, c'est-à-dire que même si un soin est coûteux, il doit être fait. Ça, je crois qu'il faut le marteler, parce que le problème, bien entendu, on est tous à l'affût de réfléchir à un déremboursement et un transfert progressif, explicite ou pas explicite, vers le secteur privé. Moi, mon combat, c'est de rappeler que c'est la solidarité bien portant malade qui doit être le fil directeur. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. Alors, vous avez, à un moment donné, posé beaucoup la question, je crois que c'est Jacques Ryoko et puis Jackie Platon, qui est autre, l'horloge a aussi d'autres idées. Vous avez posé la question d'entrée de jeu sur cette espèce d'équilibre un peu bizarroïde entre l'accès aux soins et l'accès aux droits. Et je crois que c'est l'objet même de la réflexion, de votre action de tous les jours et de la réflexion qu'on a aujourd'hui, c'est de comprendre qu'en l'espèce, on démontre que l'accès aux droits participe des soins. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La première question, de quoi souffres-tu ? La deuxième question, Où te situes-tu dans la société? Es-tu inséré? Et cette insertion participe du soin. Je crois que Sophie Rivière rappelait que les PASS trouvent leur sens vraiment dans cette association entre les soins et les droits sociaux. Alors, c'est bien la raison pour laquelle il est extrêmement important de revenir à l'assurance maladie, parce que la difficulté dans laquelle nous sommes tous, c'est bien entendu de réfléchir, et c'est une évidence, il s'agit d'euro public, donc on doit réfléchir à la bonne utilité de l'euro public dépensé. Donc il n'est pas anormal de se poser régulièrement la question sur le bien fondé du remboursement de telle pratique ou de tel médicament ou tel dispositif. Il n'est pas anormal non plus de se poser la question, ça a été dit dans la journée, d'une médecine sobre, sobriété, qualité. Je préférais d'ailleurs, moi, personnellement, associer au mot solidarité le mot frugalité. Je pense que notre défi aujourd'hui, si vous prenez un énorme recul et que vous situez notre pays occidental par rapport au monde entier, il y a une question qui va se poser, celle de la frugalité, qui n'est pas tout à fait la même chose que la sobriété. C'est vraiment une notion, il faut y réfléchir, mais la solidarité et la frugalité. Mais, et ce mais est très important, et vous le démontrez tous les jours, et tout le colloque l'a montré, une d'entre vous parlait de quelqu'un qui avait faim. Bacha Kaoutar, avec ses approches cliniques, montrait bien qu'on ne peut pas rester une approche strictement sanitaire. Et donc, il y a un ensemble de politiques publiques qui agissent, au point même que parfois, et il y a des études qui le montrent très bien, on pourrait mettre 0 centime dans la santé, que peut-être on ferait un grand progrès si on mettait beaucoup de centimes dans le logement, dans l'emploi, dans l'urbanisme, dans d'autres considérations. Donc on voit bien qu'il y a là une nécessité, et de ce point de vue-là, contaminer la société pour montrer qu'on ne peut pas rester dans une approche stricto sensu du soin au sens, pardonnez, je reviens quand même au mot anglais, au sens du cure, curatif, qui ne se préoccupe pas du prendre soin, donc du care. Donc ça, je crois que c'est un point qui ressort bien d'aujourd'hui. Alors après, vous avez posé, je crois que c'est Claire Georges dans son topo d'entrée de jeu, qui a essayé de montrer la différence entre égalité et équité. On va même aller jusqu'à Aristote pour nous le montrer. Donc on s'est tout de suite senti dès ce matin appelé à avoir beaucoup de stimulation intellectuelle. Et en fait, vous êtes en train de poser quelque chose qui est très importante, qui est vraiment aujourd'hui un défi pour toutes les politiques publiques, mais en particulier pour la santé. C'est que on a deux hémisphères, c'est bien connu. Il y a un hémisphère chez nous qui dit égalité. Je ne veux voir qu'une tête. Il n'est pas question que je sois traité différemment à Marseille ou à Lille ou à Rennes ou à Strasbourg. Et puis il y a un autre hémisphère qui dit personnalisation. Réponse personnalisée pour moi. Pour moi, dans ma situation. Et donc, je crois qu'à la question qui était posée à un moment donné, je crois, mais je m'excuse si je me trompe, mais je crois que c'était Sophie Rivière qui posait la question, est-ce que, au fond, ou peut-être Bacha Kaoutar, qui disait, est-ce que la précarité va impacter sur la thérapeutique, oui ou non? Et j'avais envie de lui dire, oui et non. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, je dois ne faire aucune différence devant les données, des données biologiques, des données de la maladie, me conduisent à avoir exactement le même type de comportement au regard des dires d'experts et des disponibilités qui sont les nôtres en matière thérapeutique. Mais, bien entendu, il y a autant de maladies qu'il y a de malades, et mon regard est d'abord celui vers le malade. Et donc la situation du malade va impacter nécessairement dans la personnalisation de la réponse. Pour ça d'ailleurs que là-dessus, les oncologues ont montré le chemin, et je pense qu'on va devoir de plus en plus avoir des plans personnalisés de santé, et je pense que ça, c'est un point très important. Alors, juste une parenthèse, parce que j'ai bien senti que vous en avez beaucoup débattu et que à la fois Grégoire Moutel, le doyen Lévy nous l'a rappelé, Régis Aubry l'a fait à sa manière, je crois qu'effectivement la question de la formation, la question de la recherche sont des enjeux extrêmement importants. D'abord, il faut toujours partir de la formation initiale, c'est un point important, mais il faut faire comprendre au monde universitaire notamment que le monde de l'accueil des personnes en situation de précarité, c'est pas le pays des bisounours. C'est pas le pays de « j'ai le cœur sur la main et je m'occupe du pauvre qui vient », c'est une vraie compétence. Et une compétence, eh bien, ça s'enrichit, ça se travaille, ça se nourrit, ça s'enseigne, ça progresse, ça se stimule. Et je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas, pardonnez-moi pour les non-médecins, je ne suis pas médecin, nous n'aurions pas des PUPH dans les PASS, des PUPH dans les soins palliatifs, au même titre que je le vois dans d'autres pays. Bon. Donc là, il y a un enjeu qui est extrêmement important, la crédibilité, le sérieux de cette affaire. Mais là où vous devez contaminer, et je vais prendre le contre-pied, c'est-à-dire que je suis d'accord avec lui, mais je suis plus optimiste et plus... Enfin, il est encore plus combatif que moi, mais je pense qu'il faut vraiment se battre, c'est un combat. C'est toutes les remarques que vous a fait Frédéric Pierru sur la verticalité de notre système. Or, je crois qu'il y a un mot-clé, je crois que c'est Sophie Rivière qui a dit, il y a un adjectif-clé, pluridisciplinarité. Vous savez, c'était frappant, elle avait un transparent, elle avait oublié, ils avaient une coquille, équipe pluridisciplinaire. Voilà, t'es tombé. Or, c'était probablement de tout la slide ce qu'il fallait retenir. Cette notion de pluridisciplinarité, cette notion, au fond, vous l'avez dit aussi à votre manière, Claire-Georges et Denis, vous avez dit, Claire-Georges, relevez le défi de la complexité. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le défi du système de santé pour la raison suivante, c'est que, alors que dans les PASS, on est encore confronté aux maladies infectieuses, globalement, sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des pays développés, on est davantage confronté à la maladie chronique et moins à la maladie aiguë. Et que veut dire chronicité ? Chronicité veut dire pluriel d'acteurs et plusieurs pluriels de compétences qui doivent être articulées entre elles au bon moment. Et donc, on ne se sortira pas à la fois d'un objectif de mieux soigner, mais aussi, divine surprise, d'un objectif de mieux dépenser si on ne travaille pas à franchir les frontières, à dépasser les verticalités, ou je le dirais autrement, à accepter qu'il y a une verticalité des compétences. Je crois que c'est Grégoire Moutet qui dit « il faut des compétences ». Bien entendu, il faut des compétences. Une assistante sociale, c'est une assistante sociale, elle a une compétence, elle a un métier. Et quand c'est un homme, il a aussi un métier, c'est pareil. Un médecin, une infirmière, un infirmier, voilà. Médecin, on dit médecin, on dit toujours médecin, que ce soit un homme ou une femme, c'est curieux d'ailleurs, mais bon, voilà. Mais l'important, c'est la transversalité des pratiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir à la fois pour améliorer la prise en charge de toutes les personnes, mais j'insiste aussi, si l'on veut éviter des déremboursements massifs, la bonne voie, c'est de travailler à ce qu'on appelle dans le jargon des process d'organisation les interfaces. Tout ce qui est interface est source de mauvaise utilisation des crédits, de mauvaise utilisation des compétences. Et donc, il me semble que là, en termes de contamination, vous avez un enjeu absolument clé et vous pouvez être les porteurs de cette dimension très importante que j'appelle, avec d'autres, la nécessité de passer à une médecine de parcours. Non pas parcours comme un effet de mode ou un lubie d'intellectuel, parcours pour éviter précisément le parcours du combattant, qui est la réalité de tous les jours, et pour faire en sorte que, effectivement, pardonnez-moi là encore une formule, de l'aide ménagère ou PUPH, j'ai une continuité parfaite. Voilà. Alors, je rêve des genoux, vous allez me dire, mais c'est le combat, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons dégrader la qualité de la prise en charge et nous nous trouverons devant un obstacle financier absolument majeur. Troisième idée que je voudrais développer ce soir, parce qu'elle a été très présente dans nos débats, évidemment, Didier Sicard l'a fait de façon absolument merveilleuse, mais Frédéric Pierru l'a pointé du doigt, c'est cette idée absolument stupide qui est que nous demandons des papiers à des sans-papiers, qui est une idée absolument folle. Vous savez, quand j'étais très jeune, il y a très longtemps donc, parce que je fais partie de la génération qui a connu Pierre Larocque, c'est vous dire que je commence à... Mais quand j'étais très jeune, je m'occupais de finances, y compris à l'hôpital, et j'avais mis en place avec le service de la ville de Paris, les services sociaux, un suivi très attentif des dossiers des personnes sans domicile fixe. Et j'ai reçu, je l'ai gardé dans ma cave, dans mes archives, j'ai reçu un jour une réponse en me disant « Monsieur Dupont, sans domicile fixe, n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée, donc nous n'avons pas pu vérifier ses droits. C'est imparable, à ce domicile fixe qui ne répond pas à la convocation qui lui est adressée, c'est imparable. » Et donc, cette question qui est forte, qui est absolument le paradoxe de la société dans laquelle on est, « Plus je suis riche, plus c'est facile. » Plus j'ai le tiers payant, il suffit de montrer ma carte, c'est réglé. Bon. Moins je suis riche, plus c'est compliqué. Et effectivement, il faut que je démontre alors qu'on ne me demande rien quand je suis riche. Et c'est quand même un peu inquiétant parce que je crois personnellement qu'une société se juge à la manière dont elle considère les personnes en situation de pauvreté et de précarité. Et donc je crois qu'il est très important d'affirmer, et là encore, et peut-être que c'est justement par là que vous pouvez, là encore, contaminer, c'est que ça a été dit, Frédéric Pierru a dit la fraude. La fraude est effectivement, qui peut être contre la lutte contre la fraude? Mais il faut trouver le ton juste. Il faut trouver le ton juste parce qu'il y a une énergie mise à rechercher la fraude. Je ne le conteste pas. Je dis, trouvons le taux juste en termes d'énergie mise à ça. Quand j'avais fait le rapport qui a fait un peu de bruit sur l'AME, puisque le gouvernement, à l'époque, j'étais revenu dans ma maison mère, et on m'avait demandé un rapport sur, vous savez, la franchise pour l'AME, donc j'avais répondu non. Bon, du coup, mon rapport avait été enterré, c'est pas grave. Mais j'avais simplement expliqué qu'il n'y avait pas de lien possible établi statistiquement, scientifiquement, entre l'évolution de la fraude et l'évolution de la dépense. Et qu'au fond, moi, par expérience, je peux vous dire que la fraude est à peu près constante. C'est-à-dire, c'est un petit chiffre qui est à peu près constant, donc il faut lutter, mais ce n'est pas là-dessus qu'on va trouver les réponses auxquelles nous sommes confrontés. Et le deuxième point qui me paraît très important, c'est le coût administratif. Et alors, quand j'étais plus jeune, mais j'ai gardé cette idée totalement folle, mais je vous la soumets, je vais me faire mal voir, mais je le redis, je suis partisan d'un hôpital sans papier. Ou d'un hôpital gratuit. Voilà. Et j'ai fait, il y a un certain nombre d'années, des calculs très précis pour montrer qu'on ferait énormément d'économies. Donc, comme toujours, quand on fait des économies, on en met dans un côté, ça permet de réduire, je ne sais plus quoi, le déficit de la France, mais on peut aussi en garder une partie pour faire d'autres choses. Bon, voilà. Donc, je crois qu'il y a là un élément qui est extrêmement important. En tout cas, trouvons le ton juste dans cette énergie. Alors, ensuite... On est allé un peu plus loin dans la confrontation, et quelque chose qui a été très important, c'est les questions qu'a posées notamment notre amie Laetitia Flander, qui a été très courageuse en tant que directrice des finances, brillante, je dois dire, mais elle a posé une série de questions, et ces questions, elles sont absolument fondamentales. D'ailleurs, on a retrouvé exactement les mêmes d'une autre manière, quand Amine Mokhtar a dit « Moi, je fais tout pour le malade, le reste, je ne sais pas ». Bon. On voit bien là qu'on est dans une confrontation extrêmement importante. Alors, il y avait un très bon philosophe, donc je ne vais pas faire trop de philosophie, mais je vais en faire un peu quand même. Qu'est-ce que dit le philosophe par rapport à ça? Il dit une chose importante, c'est qu'il y a deux mots, alors c'est peut-être des mots un peu galvaudés, comme l'éthique, mais je veux quand même les dire, c'est le mot « amour » et le mot « justice ». Le mot « amour », c'est la chose suivante, c'est que quand je suis devant une personne, je vous fais du Lévinas accéléré, quand je suis devant une personne, j'en suis son otage. Je suis responsable de lui, et je dois tout pour lui. Et ça, c'est la première démarche du clinicien devant le malade. Tout pour le malade. Mais il se trouve qu'il y a toujours un autre malade dans le box d'à côté. Il y a toujours un autre malade dans l'étage supérieur. Il y a toujours un autre malade dans une autre pathologie. Ça s'appelle en philosophie le tiers. Et s'il y a un tiers, c'est qu'il y a une justice. Et cet exercice de la justice est absolument épouvantable, car il s'agit de comparer des incomparables. Alors, on se gratte l'oreille en disant comment on peut faire. Mais c'est ça la question dans laquelle nous sommes. Alors, si je citais Lévinas, c'est parce qu'il a une phrase qui m'a toujours inspiré. Accrochez-vous, parce qu'évidemment, elle me plonge dans un abîme de perplexité. C'est la charité, donc l'amour. La charité est impossible sans la justice. Virgule, mais la justice se déforme sans la charité. C'est-à-dire qu'il faut les deux, mon général. Ça veut dire que je ne peux pas être quitte quand je suis face à un malade, je ne peux pas être quitte du bien commun. Et quand je suis face à l'équilibre d'ensemble et à la répartition et au choix budgétaire, je ne peux pas être quitte de la situation particulière de chacun. Et c'est cette confrontation-là qui est importante. Alors, elle a été évoquée sous le terme de transparence. Je pense que la transparence, ça veut dire, c'est quelque chose d'important en matière éthique, c'est la confrontation des points de vue au sens du point d'où je vois. Je ne vois pas la même situation quand je suis à 2h du matin dans un pass et que j'accueille quelqu'un. Je ne suis pas dans la même situation que quand je suis dans un bureau en train d'essayer de répartir des budgets. Bon. Je ne sais pas s'il y en a un qui a plus raison que l'autre. Il y en a un qui est dans la situation très concrète de l'affrontement et l'autre qui est dans une situation où il doit balancer. Eh bien, j'appelle à ce que nous ayons des temps de confrontation de points de vue. Il faut bien entendu ensuite un verdict au sens où il y a des décisions qui doivent être prises, de la même manière qu'en matière thérapeutique, on prend une décision. En matière de gestion, on prend une décision. C'est ce qu'en justice, on appelle le verdict. Mais il y a pour moi une notion fondamentale, c'est l'après-verdict. Je ne suis jamais quitte de la décision prise. Et si je ne suis jamais quitte de la décision prise, eh bien, c'est qu'il y a un moment donné où je dois rentrer à nouveau en débat, en confrontation, et avoir une ligne rouge qui est, me semble-t-il, je vous la donne, ça a toujours été pour moi ma conviction pour essayer de définir le service public. Vous savez que le législateur précédent a supprimé la définition du service public. Dans la loi HPST, je ne sais plus ce que c'est que le service public hospitalier. Bon, alors, je me suis fait ma propre définition. Alors, je vous la livre, c'est le mieux possible pour tous et pas l'excellence pour quelques-uns. Bon. Et si j'ai cet objectif-là, eh bien, ça m'amène à essayer de pondérer un certain nombre d'éléments. Alors maintenant, j'en viens au temps, et là vraiment, j'espère qu'il y aura, vous allez diffuser les réflexions, parce que ça a été un moment absolument clé de la journée. On a eu la chance, je trouve, d'avoir deux exposés qui ont été creusés la réflexion sur ce que c'est que l'éthique. Puisque Claire Georges a commencé en nous disant « l'éthique est un mot galvaudé », elle a parfaitement raison, c'est même un parfum éthique. Je me parfume à l'éthique chaque matin. C'est vrai, hein, c'est un parfum. Je ne sais plus de quelle marque, mais c'est un parfum. Bon. Et un directeur de la communication normalement constitué va dire à son patron qui donne une interview, « Monsieur, surtout, n'oubliez pas d'avoir employé le mot éthique une fois. » Le reste, ça ira. Employé le mot éthique. Et ça couvre tout, bien entendu. Alors, je crois qu'à la fois Tanguy Châtel et Marc Grassin nous ont amenés à ce que je crois absolument essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, et là je vais prendre une expression très forte, ils nous ont dit, l'éthique conteste la puissance, l'éthique conteste le possible, l'éthique, il y a une très belle expression en disant, c'est on est dans les écarts. Bon, et puis il y a un mot qui a été employé tout au long par plusieurs d'entre vous, funambule. Et c'est quoi un funambule? C'est quelqu'un qui est en permanence en déséquilibre. Mais parce qu'il est en permanence en déséquilibre, il continue à avancer, parce qu'il arrive justement à se mouvoir. Mais il n'est pas dans une position stable, fermée, serrée. Bon. Eh bien, je crois que ça, c'est quelque chose qui est absolument clé, c'est de comprendre. Alors, Lévinas avait une expression très forte, il parlait d'un... -quiétude. Non pas l'inquiétude au sens « je suis angoissé et je prends des antidépresseurs ». Non, un-quiétude, c'est-à-dire « je ne suis pas dans la quiétude de mon pouvoir, de mon savoir, de mon vouloir ». Et donc l'éthique est quelque chose de profondément subversif. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je n'emploie plus, Claire Georges, plus du tout le mot « éthique » tout seul. J'essaye toujours de l'accompagner par réflexion éthique, questionnement éthique. Personnellement, je préfère encore un-quiétude éthique, c'est-à-dire pour justement aller au sens du plus fondamental, qui est qu'au fond, on découvre, c'est un peu un jeu sur les mots, j'espère me faire comprendre, c'est l'impossible du possible. C'est-à-dire, contrairement à ce que Heidegger disait à propos de la mort, il disait c'est le possible de l'impossible. Il peut se produire quelque chose qui est impossible, puisque la mort est impossible, puisque je ne peux pas... je ne sais pas ce que c'est que la mort. Personne n'est revenu pour raconter comment ça s'est fait. Bon. Donc on est dans l'impossible au sens où je ne peux pas reproduire, je ne peux pas faire deux fois ma mort. Ben, sauf dans certains livres, dans certains romans, mais je ne peux pas faire deux fois. Donc c'est impossible. Moi. Eh bien, je retourne la plaisanterie et le jeu de mots en disant qu'en réalité, on découvre... Par la remise en cause radicale qu'est la souffrance, la maladie, la perte d'autonomie, la précarité, la vulnérabilité, tout ça nous montre que c'est l'impossible du possible. Dit autrement, ça l'a été dit, c'est l'impossible. C'est vraiment, et là, martelez-le, contaminer la société, encore une fois, c'est vrai qu'il y en a assez de parler de la performance. Parce que figurez-vous que je peux être un truand performant. Et donc, oui, bien sûr qu'il faut être performant au sens où il faut que je fasse bien ce que j'ai à faire. mais précisément ce que j'ai à faire. C'est-à-dire, il y a à faire bien les choses et il y a à faire les bonnes choses. Et donc, le comment, peut-être, mais d'abord le pourquoi. Bon. Et donc, c'est un point très important. Et de ce point de vue, je crois que là aussi, vous pouvez contaminer, parce que si je m'interroge sur la performance, sur l'impuissance, sur l'accompagnement qui ne se traduit pas uniquement par des données biologiques, des données chiffrées, etc., si par ailleurs j'interroge l'extraordinaire complexité administrative pour faire valoir des droits, et si, eh bien j'en amène aussi à m'interroger sur les éléments importants que sont par exemple la société dans laquelle nous sommes qui veut développer des nomenclatures pour payer, une tarification à l'activité, une tarification à l'acte. Je vous invite à, comme vous l'avez dit, Claire-Georges, je répète, à penser la complexité. Et agir dans la complexité. L'humain est complexe. Donc ne le découpons pas en rondelles de saucisson. Et Patrick Pierru disait quelque chose de tout à fait intéressant. Il disait, c'est très bien la formation, mais si je ne change pas les modes de rémunération, ça ne sert à rien. Et je vais lui dire, il faut qu'on soit capable de faire les deux. Il faut qu'on soit capable de penser ensemble la formation initiale, le mode de rémunération, les échanges d'informations, le franchissement des frontières entre sanitaires et médico-social, entre les aidants familiaux et les professionnels. Il faut rendre imperméables les imperméables budgétaires. Mais il faut penser ça ensemble. Il faut agir ensemble. Et agir ensemble, ça veut dire également avec l'ensemble des compétences professionnelles, d'où la confrontation des points de vue. Bon, je vois que je suis trop long, donc je passe. Et je voulais juste, peut-être pour finir, parce que vous donner là une conviction un peu plus personnelle, puisque vous me l'aviez demandé, et je me propose de finir par ces deux, trois mots. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'autre mot qui m'a frappé, c'est le mot de vulnérabilité. La vulnérabilité, on l'a employé pour évoquer les personnes qui sont en précarité, les personnes qui sont dans les soins palliatifs, les personnes en gériatrie, les personnes en pédiatrie. Enfin bref, toute personne malade est vulnérable. C'est même la définition propre de la vulnérabilité, c'est que tout est remis en cause. Tout est remis en cause. Et quand je suis en précarité, pareil. La vulnérabilité, on la voit bien. Eh bien, je vous invite à penser qu'en réalité, il s'agit d'un dialogue entre deux vulnérabilités. Parce que si le soignant, le médecin le soignant, si l'administratif, si le travailleur social n'est pas vulnérable au sens où Lévinas avait cette très belle expression, il disait « seul un moi vulnérable est capable d'aimer ». C'est-à-dire seul un moi qui est capable d'être déstabilisé, de détourner son pas pour aller vers autrui, eh bien, c'est ce dialogue entre deux vulnérabilités qui me paraît important. Parce qu'en réalité, il n'y a d'éthique, il n'y a de rencontre avec autrui que dans une fragilité de son propre ego. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai oublié de le noter, enfin je l'ai noté, mais je ne vais pas avoir le temps de retrouver la note, qui disait c'est une remise en cause de soi. Encore une fois, c'est en ce sens que j'ai bien aimé l'image du funambule, c'est que ça bouge. Je ne peux pas rester dans mon camp à moi. Je suis dans la rencontre. Et il se trouve que c'est par ce déplacement de soi, cette ouverture vers autrui, qu'on trouve le sens profond de l'humain. Alors, je ne fais pas une prêche religieuse, je cite encore une fois mon philosophe bien-aimé, mais qui m'a fait découvrir qu'il y a une phrase biblique qui est utilisée par tout le monde, « Aime ton prochain comme toi-même ». Alors, ce n'est pas du tout que je l'aime comme moi je m'aime. Le « comme » veut dire « aimer ton prochain, c'est ce qui te fait toi-même ». Tu deviens toi-même en t'ouvrant à autrui. C'est cette dimension-là qui est importante. Donc, il faut que j'accepte cette vulnérabilité qui fait que le sujet n'est pas tellement de changer mon regard sur les pauvres. Je me penche et je regarde différemment les pauvres. Non, c'est pas ça qui est en cause. C'est de comprendre que c'est l'autre qui va me changer. C'est pas mon regard qui va changer sur autrui. C'est l'autre qui va me changer. Et c'est ça le vrai sens pour moi de l'accompagnement. Alors bien sûr, c'est assez subtil. Mon regard peut déshumaniser. Et malheureusement, l'histoire l'a montré. Terriblement. Je peux dire « celui-là n'est pas un homme, celui-là est un sous-homme ». Ça, je peux le dire. Ben, j'espère que je ne le dirai jamais. Mais intellectuellement, je peux le dire. Mais en réalité, je ne peux pas décider s'il est un homme. Il n'a pas besoin de moi pour savoir s'il est un homme. Mais en revanche, c'est lui qui me fait devenir homme. Enfin, humain, pardonnez-moi, homme et femme. qui me fait devenir, me découvrir mon humanité. Et ça, c'est ce point très, très, pour moi, absolument fondamental. Et donc, je voudrais juste dire trois mots de conclusion. Le premier, c'est que c'est pour ça que je vous invite à réfléchir sur le mot « autonomie » en comprenant qu'il n'y a pas d'autonomie sans une hétéronomie préalable. Je sais parler français parce que quelqu'un m'a appris à parler français et ce faisant m'a donné les moyens de vivre mon autonomie et de penser par moi-même, mais j'ai d'abord eu un maître. Et celui que je rencontre, et en particulier le plus faible, le plus vulnérable, est d'abord mon maître. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. La deuxième chose, c'est que tout se déploie dans une narration, et ça, ça a été dit, et j'insiste beaucoup, je pense que dans une consultation, quelle qu'elle soit, mais en particulier celle que vous faites, il y a une opposition, vous savez qu'on dit toujours en philosophie, entre le « dit » et le « dire ». Vous savez, je n'ai pas les mots, je ne trouve pas les mots pour vous le dire. Ce qui veut dire que j'ai un « dire » que je n'arrive pas à exprimer dans un « dit ». Eh bien, la difficulté, c'est d'aller entendre le « dire ». C'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par les mots. Et ça, ça s'appelle prendre du temps, mais ça s'appelle aussi confronter des expériences professionnelles différentes. Parce que la manière dont j'ai écouté quand je suis médecin ne sera pas la même manière quand je suis assistant social ou quand je suis infirmier. Je vais découvrir un peu plus le dire en confrontant mes écoutes du dit, parce que le dit ne sera pas forcément de la même manière. Alors, au fond du fond, je voudrais vous dire que un mot qui, pour moi, est très important, ça a été dit, je crois, par... j'ai noté Anne-Marie, mais je ne sais plus qui c'est, bon, elle se reconnaîtra. Mais à propos, on a dit hôpital. Hôpital veut dire hospitalité. Mais vous savez qu'hôpital, autrefois, dans le Moyen-Âge, les hôpitaux s'appelaient Hôtel-Dieu. Et vous savez pourquoi ils s'appelaient Hôtel-Dieu? Eh bien, c'était parce qu'on citait l'évangile, je crois, Matthieu 25, et considérait que ça voulait dire que c'est le malade qui est Dieu. Et donc, j'accueillais Dieu. Et quand moi, plus modestement, je disais, et je le dis toujours, le malade est le cœur de notre action, c'est parce que c'est bien lui qui est le cœur au sens, non pas au cœur, je ne tire pas. Vous savez, souvent on dit dans les trucs de consultants, l'homme est au cœur ou le malade est au cœur. Moi, je pas beaucoup ça parce que j'ai l'impression que c'est une cible sur laquelle je vais tirer. C'est le cœur, c'est-à-dire c'est ça palpite, c'est l'organe qui va faire vivre l'ensemble. C'est lui le maître du jeu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est ce que Lévinas appelait la vocation médicale de l'homme, voilà, pour dire justement que le propre même de l'accueil de ce qui se passe dans une situation passe, et encore une fois, vous avez insisté, c'est soins et santé, je n'y reviens pas, mais cet accueil-là, eh bien, c'est la vocation profonde qui fait l'humanité, et donc à cet égard, vous avez parlé de vigilance, Marc Grassin a insisté là-dessus. Je voudrais vous dire que je vous demande une chose. Je vous ai demandé tout à l'heure de contaminer la société. Je vous demande de continuer à être des veilleurs, parce que quand il y a des veilleurs, eh bien, il y a des éveilleurs. Et donc, je vous remercie de nous éveiller.